France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « Ressusciter ensemble ». Sous le sillage de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, inspirée d'un ouvrage paru en 2025 aux éditions L'Harmattan, sous le titre « Ressusciter ensemble, correspondance entre une catholique et un orthodoxe ». Les deux auteurs de ce livre, Chiara Bertoglio et Michel Simeon, sont avec nous pour en parler et expliquer leur approche des relations œcuméniques. Chiara et Michel, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous avez tous les deux des profils assez atypiques, il faut dire. Chiara Bertoglio, vous êtes musicienne et docteur en musicologie, mais aussi théologienne catholique, enseignante et auteur de plusieurs ouvrages. Michel Simeon, vous êtes essayiste et traducteur de textes qui ont trait à l'Église, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po donc, et de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et en 2025, vous avez été ordonné diacre. Alors, ça fait déjà deux profils extrêmement riches. Et l'ouvrage qui vient de paraître contient une année de correspondance entre vous deux, une catholique italienne et un orthodoxe roumain devenu français. Ces lettres ne sont, selon vos propres termes, dans l'avant-propos du livre, ni profession de foi, et encore moins de controverses dogmatiques, mais un dialogue entre deux sincérités très tranchées. Qu'en est-il au fait, Michel ?
Bien, ben écoutez, merci beaucoup, cher Alexis. Bah, ce qu'il faut dire peut-être d'emblée, c'est que ce sont vraiment des lettres. Il n'y a pas de mascarade, il n'y a rien de contrefait, de surfait. C'est vraiment, quand on a écrit deux sincérités, comment dire, pour être très clair pour nos auditeurs, ben, il y a eu des lettres avant et on aura, j'espère, après. À un moment donné, on s'était dit, et si on mettait de côté ces lettres-là pour les publier. Il n'y a pas eu d'ordre préétabli, c'est vraiment les lettres telles quelles. Chiara habite à Turin, en Italie, j'habite en Bretagne, donc on ne se voyait pas tous les jours, mais on s'écrivait presque toutes les semaines, parfois toutes les deux semaines. Preuve en est, si je puis dire, par exemple, Chiara évoque à un moment donné son voyage à Jérusalem en octobre 2023, ça s'invente pas, c'est quelques semaines avant le massacre. Et puis moi, je parle d'un voyage au Laos en janvier 2024. Ben, vous pouvez vérifier si vous voulez, je suis bien allé au Laos en janvier 2024, et il est bien allé à Jérusalem à l'automne 2023. Donc ce sont vraiment des lettres. Ce point de vue-là, je dirais que c'est quelque part un peu plus de littérature que de théologie, ou c'est un peu les deux. Parce que on va y trouver, bien entendu, des points de vue, des sensibilités différentes entre une catholique et un orthodoxe, et il y en a. Mais on va trouver aussi des choses qui nous sont chères, je dirais même personnelles, qui sont des incursions dans la littérature, dans l'art, dans la musique, ça n'étonnera personne, puisqu'il s'agit de Chiara Bertoglio. Voilà. Donc, c'est une correspondance qui a été rendu public, c'est un dialogue qui a été fait, dialogue public.
Un dialogue qui commence quand même à la transfiguration et qui finit avec la transfiguration, si j'ai bien compris. Hein,
exactement.
Tout à fait. Alors, quelle est l'idée centrale, en fait, de ce livre, Chiara?
Bon, je pense que l'idée centrale est vraiment l'amitié, parce que c'est un échange de lettres entre deux amis. Et notre amitié a naturellement pris en considération ce qui est important pour nous deux. Et pour nous deux, la foi est quelque chose de vraiment très important. Donc, très naturellement, on a commencé à parler de notre foi, et j'utilise le singulier avec précise volonté. Et puis après aussi, de ce qui est un peu la différence entre les deux confessions, les deux manières d'entendre la même foi. Et personnellement, ça m'a enrichi énormément, soit du point de vue culturel, bien sûr, mais surtout du point de vue humain et spirituel, parce que j'ai mieux compris ce que moi je suis en tant que chrétienne grâce au dialogue avec Michel.
Michel, oui.
Je dirais juste un mot pour compléter cela. À un moment donné, j'avais pour idée, une fois que on avait mis un point final, mais bon, c'était en fait un point provisoire à ce livre, de l'intituler, mais bon, personne n'a pas trop aimé ça, mais je vais le dire quand même, les murs qui nous séparent n'arrivent pas jusqu'au ciel. Parce que il y a des murs, mais comment vous dire, c'est nous qui les avons bâtis, chacun de son côté, catholique et orthodoxe. Ce n'est pas Dieu et encore moins le Christ. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, nous qui les avons construits, c'est nous qui les avons bâtis, eh bien, nous pouvons les abattre. Et je crois que le temps est venu de nous mettre à abattre ces murs.
Je ne sais pas si c'est un motto comme ça qui a été comme ça pour le livre. On le voit en une petite note d'une des lettres que vous avez envoyées, Michel. Mais je vois une citation de Mère Marie Skoptsov, Sainte Marie Madeleine de Paris, qui est une personne tout à fait exceptionnelle, on le sait, et qui a vécu à Paris, qui est morte dans un camp de concentration. Et elle disait, il y a deux manières de vivre. Selon les règles, marcher sur les chemins, mesurer, soupeser, prévoir. Mais on peut marcher sur les eaux. Dans ce cas, on ne peut ni mesurer, ni prévoir. Il faut simplement croire, toujours. Un seul moment de doute, et on s'enfonce. Alors, je ne sais pas si ça, pour vous, ça a été quelque chose d'omniprésent, je dirais, mais on a l'impression que vous cherchez un tout petit peu dans cette direction et de ne jamais laisser passer, si vous voulez, des choses qui pourraient vous permettre de vous enfoncer. Alors, il y a aussi des thèmes chrétiens qui reviennent beaucoup et qui sont vus d'un côté et de l'autre, mais qui apparemment vous unissent. Par exemple, la fameuse prière du cœur. Chiara ?
Oui, moi j'ai connu la prière de cœur pas dès mon enfance parce que c'est quelque chose que j'ai connu un peu plus tard, mais ça m'a vraiment donné tellement parce que c'est une façon de vivre le rapport avec le Seigneur, la présence de Dieu dans chaque moment de la vie et qui pénètre l'existence et lui donne une lumière très particulière. Donc je n'arrive pas à pratiquer la prière de cœur comme il le faudrait, mais quand même c'est une présence continue dans ma vie. Est quelque chose qui m'aide dans chaque moment de mon existence à percevoir la présence de Dieu, qui est quelque chose qui remplit vraiment nos pas. Justement, le pape Léon a recommandé la prière du cœur grâce à un écrit d'un carme du 17e siècle qui parle de la présence de Dieu comme de quelque chose qui donne le souffle, je dirais, à la vie chrétienne.
La prière du cœur, enfin, on peut penser qu'on entend quelque chose de prière intérieure ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Parce qu'évidemment, c'est lié aussi à la théologie hésychaste du XIVe siècle. Et nous savons très bien qu'en Occident, cette théologie, et pour voir pas la masse, n'ont pas été reçues très bien jusqu'il y a peu de temps. C'est le XXe siècle qui a remis ça au goût du jour, j'allais dire. Donc, entendre dans le monde catholique des gens qui, quand même, sont sensibles à ça, c'est vraiment important. Michel ?
Oui, je dirais que lorsque Chiara m'a dit, j'ai dû évoquer quelque part la prière du cœur, elle m'a dit, mais ça je connais, depuis longtemps, avant même, bon, je crois qu'elle m'a dit d'une manière pas très polie ou polissée, je t'ai pas attendu pour que je connaisse la prière du cœur, heureusement d'ailleurs, mais je me suis dit, et j'ai découvert ça en s'écrivant, j'ai trouvé que ce qui nous a été donné en partage est essentiel et qu'il y a quelque chose qui nous relie en profondeur, Chiara et moi. Mais quand je dis Chiara et moi, je devrais dire un catholique ou une catholique sincère, un orthodoxe et une orthodoxe sincère. Et ce qui nous relie en profondeur, moi, j'ai trouvé que cela excède ce qui nous divise en surface. Et franchement, ce livre n'est pas polémique, loin de là. C'est impossible avec deux amis, comme disait Chiara. Mais il n'est pas non plus, comment vous dire, d'un écuménisme de façade ou frelaté. C'est-à-dire qu'on n'a pas évité ce qui peut faire mal juste par politesse. Mais sauf que les choses sont venues naturellement. On s'était pas dit, écoute, dans trois semaines, il faudrait que tu évoques Filioque et moi, je vais évoquer le dogme de l'Immaculée Conception. C'est venu quand c'est venu, au fil des conversations.
Et aussi, je dirais, au fil de l'année liturgique, ce qui est aussi très beau, parce que beaucoup des sujets qu'on a traités étaient un peu provoqués par le déroulement de l'année de l'Église. Donc, c'est aussi quelque chose qui donne un peu le rythme à notre vie en tant que chrétienne, et donc aussi à nos pensées, je voudrais dire.
Un autre thème qui revient, bien sûr, c'est le dévouement, je dirais, la prière adressée à la Mère de Dieu, la Vierge, et nous savons très bien qu'il y a des divergences théologiques aussi, avec certains dogmes de l'Église de Rome, par exemple. Et pourtant, évidemment, cet amour, je dirais, de la Mère de Dieu est partagé, je dirais, par tous les chrétiens et ici par les catholiques et les orthodoxes. Alors, qu'en est-il au fait et où vous pouvez vous retrouver quand on sait qu'il y a aussi quelques différences qui sont théologiquement importantes?
Bon, je peux dire que quand mes parents se sont mariés, ma mère a voulu l'icône de Vladimir sur l'autel. Parce que c'était pour elle vraiment le symbole de la maternité de Marie et aussi de son accueil de tout ce que le Seigneur lui demandait et lui donnait dans la joie et dans la douleur. Alors, je pense que c'est ce don d'avoir toujours été inspiré par une dévotion mariale qui est enracinée dans la contemplation du mystère d'une façon qui est vraiment commune entre catholiques et orthodoxes et quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie et que avec Michel, j'ai pu acquérir une profondeur nouvelle.
Alors, Michel, sans vouloir entrer ici dans la discussion sur dogme ou pas dogme de l'Immaculée Conception, est-ce que c'est un dogme, est-ce que c'est un théologoumène ? Bon, je veux dire une seule chose qui va vous faire plaisir, Alexis, mais qui va faire plaisir à Chiara, donc je fais exprès. Moi, quand j'entends Stabat Mater de Père Gaulez, je ne peux pas me dire « Ah oui, mais c'est catholique ». C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En quoi Stabat Mater de Père Gaulez n'est pas orthodoxe? Il faudrait qu'on m'explique en quoi ce cri, ce chant de tristesse et en même temps de joie rassurée qui exprime aussi bien la souffrance de la crucifixion que la certitude de la résurrection. En quoi cela nous, entre guillemets, désunit? Moi, j'ai pas trouvé de réponse à ça, mais je pense qu'il y en a pas.
Écoutez, la réponse sera musicale, et cette fois-ci, c'est pas le Stabat Mater de Père Gaulez, mais c'est une autre œuvre, évidemment inspirée toujours de l'histoire du Christ, les sept paroles du Christ sur la croix de Haydn. Et c'est un arrangement de Karl Czerny, Czerny que nous connaissons, enfin, tous les pianistes connaissent comme maître de technique digitale surtout, mais ici c'est interprété par Chiara Bertoglio, notre invitée, qui est aussi pianiste. Et après cet extrait des sept paroles du Christ sur la croix de Joseph Haydn, dans un arrangement de Karl Czerny, interprété par notre invitée Chiara Bertoglio, qui est théologienne, mais musicienne aussi, pianiste. Chiara, une question donc pour vous. Est-ce que vous voyez dans la musique des liens possibles entre les différentes traditions chrétiennes?
Sans doute. En tant que théologienne, je me suis occupée aussi du rôle de la musique entre catholicisme et protestantisme à l'époque des réformes. Et j'ai vu que même dans une période où les chrétiens étaient vraiment très opposés les uns les autres, la musique était un lien qui restait forte. Parce que la musique est une forme de prière, enfin. Et même si la théologie est très importante, et c'est sûrement pas moi qui va dire... le contraire. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'expérience du Dieu, la relation avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui unit tous les chrétiens qui se reconnaissent dans le regard du Père sur le Fils et du Fils sur le Père. Alors, il y avait des pères de l'Église qui parlaient du Christ comme du chant nouveau. Et vraiment, il est celui qui a donné l'harmonie et a été une mélodie, un mélos dans sa musique pour le Père. Alors, je pense que les trésors de la musique chrétienne, comme aussi, par exemple, de l'iconographie, sont des symboles très, très puissante qui nous aide à contempler la beauté et la vérité et la bonté du Dieu dans un langage qui parle directement au cœur, mais qui ne se limite pas forcément au cœur, mais comprend la personne entière.
Michel, vous aussi, dans vos lettres, vous parlez souvent du rapprochement entre l'art des deux côtés, par exemple, ou des personnages, par exemple, un folle en Christ en Russie, et puis évidemment la peinture italienne, des choses. Il y a un endroit où vous parlez de Giotto, je crois, et vous parlez de Saint-François d'Assise, des profils comme ça. Donc, des profils qui, en fait, inspirent des deux côtés, et qui dépassent le cadre, je dirais, local et peut-être cultuel.
Moi, je me suis beaucoup intéressé à la vie, à la personnalité, à l'œuvre qu'on dit ont écrit, à tout ce qu'ils ont dit, à certains saints, à certaines personnalités béatifiées par l'Église ou reconnues comme saints par aussi bien les catholiques que les orthodoxes. Et je voudrais poser à nos auditeurs une question très simple, surtout à nos auditeurs orthodoxes. Mon Dieu, en quoi saint François d'Assise n'est-il pas orthodoxe? Je sais bien, il était catholique, mais en quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, qui est pas très orthodoxe? Moi, je n'ai pas trouvé. Au contraire. Et j'irai plus loin. Sa joie lumineuse est-il vraiment différente de celle, par exemple, de saint Séraphin de Sarov, qui lui aussi aimait les animaux, qui lui aussi aimait la création entière? Et puis, il y a une deuxième personnalité auquel je fais référence dans le livre, qui est Sainte Thérèse de Lisieux et qui est aussi très proche de Chiara. Je sais où Chiara est très proche d'elle. Et bon, j'en parle parce que avec Jeanne d'Arc est une sainte patronne de la France, mais son extrême humilité et le fait qu'elle pense que la grâce prime sur l'effort humain sont-ils vraiment très loin et très différent de celle de Saint-Silouin de Latonite que tous les orthodoxes vénèrent aujourd'hui et considèrent comme un grand saint? Eh ben, moi, j'ai pas trouvé de différence. Alors, elles sont très différentes. Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est une jeune fille, elle est, à quel âge elle est morte?
24.
À 24 ans. Bon, très bien. D'une vie très courte, mais en quoi ce qu'elle dit, le peu qu'elle a pu écrire, est très différent de l'enseignement profond d'humilité de Saint-Silouin de Latonite? Moi, j'ai pas trouvé de différence.
Pour l'un et l'autre, si vous voulez, quelle est la chose la plus importante que chacun trouve dans l'autre confession?
Pour moi, ce que j'ai appris beaucoup par les orthodoxes, c'est la richesse de la liturgie, le soin, l'attention, l'amour qu'on a pour tous les détails de la liturgie et le fait que la liturgie même transmet immédiatement la transcendance. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. Et les icônes. Les icônes, parce que c'est un langage que, en tant qu'artiste soi-disant, parce que je suis plutôt artisan, mais en tout cas, mais qui me parle très profondément et qui m'aide à regarder dans les yeux le mystère. C'est quelque chose qui m'a ouvert des dimensions très importantes. Et puis, en réfléchissant sur ce que Florence, qui par exemple écrit sur les icônes, j'ai trouvé beaucoup de points de contact avec la théologie de la musique, qui est un peu ma discipline.
Et vous, Michel?
Bon, ce qui me concerne, c'est bon, un peu moins raffiné que ce que Chiara dit, c'est l'esprit fou des cathédrales. Moi, je suis pas un Français de naissance, je suis un Français de préférence, si vous voulez. Quand je suis arrivé ici de ma Roumanie natale, j'ai été ébloui par la folie des cathédrales dans tout le nord de la France, par la folie des cathédrales italiennes. Oui, je sais, c'est très loin de la simplicité de l'église orthodoxe, du monastère orthodoxe, du mont Athos, tout ce qu'on veut. Mais moi, je n'oublierai jamais les premiers jours de mon séjour parisien qui maintenant dure depuis plus de 40 ans, où j'allais à 8 heures du matin à Notre-Dame, avant la messe, pour écouter l'orgue, et c'était un organisme qui faisait, l'organiste, il faisait des exercices, c'était toujours du Bach, mais je peux pas oublier cela, et si Dieu n'était pas avec lui et dans cette cathédrale-là, je me demande où était-il.
Alors voilà, la musique encore présente. Donc, dans ce dialogue œcuménique, si vous voulez, qui avance, évidemment, on le sait, et puis qui progresse aussi beaucoup, mais qui ne peut pas effacer tout ce que l'histoire a décidé jusqu'à présent. Pour l'un et l'autre, quelle est la chose la plus urgente?
Pour moi, je pense que c'est l'idée qui a aussi donné le titre à notre livre, Ressusciter ensemble. Alors, le désir de pouvoir célébrer les Pâques ensemble. Et vous l'avez justement dit, il y a des blessures de l'histoire. Ressusciter implique une mort, implique une souffrance. Alors, on a déjà vécu ces blessures. Maintenant, je pense qu'il est temps de vivre ensemble la résurrection du Seigneur.
Oui, elle a parfaitement raison. Pour moi, c'est pareil. Ça vous étonnera pas. Je trouve que là, c'est le scandale des scandales. Quand je fais carême, elle célèbre Pâques le plus souvent. Et je trouve que, bon, surtout pour, encore une fois, un Roumain de diaspora qui vit en Occident, avec tant de familles mixtes catholiques et orthodoxes, c'est difficilement vivable. Et je pense que c'est injuste envers le Christ.
Écoutez, pour terminer, je vais vous demander quel est donc votre souhait de voir relativement vite, si vous voulez, puisque vous dites vous-même, évidemment, que cet ouvrage n'est pas un ouvrage fait par deux personnes qui représentent chacune son église, etc. Ce sont des élans tout à fait personnels, mais quand même extrêmement forts, et une autre manière de faire l'œcuménisme, comme on dit. Alors, Chiara.
Bon, je pense que maintenant, dans nos sociétés très sécularisées, où beaucoup de personnes ont un indicible désir et nécessité de rencontrer le Christ, mais n'arrivent pas à donner un nom à ce désir, il faut vraiment que nous chrétiens, qui avons eu le don de la foi, pouvons témoigner cette foi d'une façon unie et pleine d'amour et de communion.
Michel. Alors, en tant qu'orthodoxe, moi, je voudrais dire quand même que ce livre, je voudrais qu'il efface, comment dire, le regard de supériorité parfois teinté de condescendance avec lequel orthodoxes et catholiques se regardent parfois. Et si moi, cela m'a été donné, alors ça peut être donné à tous.
Ce sera le mot de la fin. Chiara Bertoli et Michel Simion, merci. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Ressusciter ensemble ». L'Harmattan 2025. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation Charlotte Roux. Prise de son Delphine Baudet. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Bon dimanche à tous.